I think the first responsibility is with institutions or in universities, so that need to move towards responsible data management and producing and using fair data, having a policy of reuse and rewarding, having a politics, having policies at the level of the institution that reward those of their staff, of their researchers that do this. They need also to supply the infrastructure, and it's a human infrastructure or it is a technical infrastructure. So it is. This is, I think, where it starts. Then, je l'ai fait en français plutôt. Une deuxième étape, il faut qu'ils participent. On espère, du point de vue de la Commission, qu'on voit une association EOSC qui regroupe tous les acteurs de la recherche en Europe, c'est-à-dire les fournisseurs de services, mais aussi les utilisateurs, les producteurs de données, les infrastructures, etc. Donc, on espère que tout le monde sera dedans et que donc ça c'est une autre étape que s'engager dans l'association et on peut dire dans des positions clés là-dedans. Il y a bien sûr un rôle pour le pouvoir public, à part les instruments pour le financement, établir les politiques au niveau du pays. Afin de promouvoir les comportements qui favorisent cette transition vers la science ouverte et vers la science digitale, dont le EOSC, c'est l'infrastructure. Alors, c'est ça, pour ne pas trop parler, j'arrête là-bas.
Merci, Costas. Martine, sur le point de vue de ANR, est-ce que votre avis, votre commentaire?
Bonjour. Alors déjà, peut-être rappeler que l'ANR a rejoint donc l'association en tant qu'observateur aux côtés de 12, je crois, autres agences de financement, parmi lesquelles hein, la DFG, FNR au Luxembourg, FNSF en Suisse, je crois que Formas, VR en Suède, etc. Ce qui est important pour nous et la raison pour laquelle on a souhaité rejoindre, c'est que, bien sûr, il y a une contribution nécessaire et importante des agences de financement pour accompagner hein, cette transition hein, qu'évoquait Costas Glinos tout à l'heure, notamment donc à travers la mise en place de nos politiques sciences ouvertes. À l'ANR, donc, ça s'est décliné avec le volet publication d'une part, le soutien fort à l'archive internationale, notre archive nationale HAL, et puis plus récemment, donc, la mise en place hein, d'un plan de gestion des données pour tous les projets financés. Mais toute cette mise en œuvre de politique, elle n'a pu se faire grâce à une concertation. Et une volonté aussi d'alignement. Et je pense que c'est là que intervient vraiment l'importance hein, de s'engager dans des structures comme EOSC. Donc, d'abord au niveau national hein, pour les publications et le DMP, également hein, dans Coalition S, hein, dont tout le monde a entendu parler maintenant. Pour le plan de gestion des données, avec un travail qui a été fait aussi entre les agences au niveau de Science Europe, récemment, et d'ailleurs, Costas Glinos, vous participiez aussi à une table ronde sur à l'occasion de la publication d'une seconde édition du guide pour ces DMP. Donc, pour une agence comme l'ANR, c'est indispensable que cette réflexion soit menée vraiment en concertation et dans le cadre de structures nationales et européennes. Voilà. Deuxième, peut-être juste un autre point, de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir aussi contribuer, ben, en étant, et ça va être un peu le deuxième volet, à l'écoute aussi hein, des besoins, peut-être des besoins spécifiques hein, des communautés de recherche en France, en essayant d'adapter peut-être des appels spécifiques. On avait commencé à le faire 2019 avec un appel particulier centré sur l'ouverture de la gestion et l'ouverture des données hein, qui avait reçu beaucoup de propositions et appel que l'on souhaite étendre justement au niveau européen avec nos partenaires, nos agences partenaires. Voilà, donc je pense que c'était un petit peu ce que je souhaitais indiquer. Et enfin, dire aussi on souhaite tous, je pense, hein, que à terme, hein, tout ceci soit totalement, et c'est ce que aussi Costa, je pensais, je ne sais pas comment traduire le new normal en français, mais on souhaite que dans un avenir pas trop lointain, tout ceci soit totalement intégré et partie prenante et intégré dans les projets de recherche.
Merci, Martine. Odile, sur le point de vue de l'INRAE.
Oui, bonjour à tous. Donc, INRAE résulte de la fusion d'INRA et d'IRSTEA au 1er janvier 2020. Et au sein de ce nouvel institut, je suis directrice d'une nouvelle direction qui s'appelle Direction pour la science ouverte et qui couvre le spectre global de la science ouverte, enfin, donc publications, données et infrastructures et sciences citoyennes, citizen sciences. Et donc on est membre de la ISBL. Ma direction est engagée dans le projet EOS Pillar et plusieurs UMR de l'Institut sont engagés dans les projets de clusters que sont EOS Clife et Envrifer. Donc, pourquoi s'engager dans EOSC? Alors, trois raisons de mon point de vue. La première, c'est que je pense que la vision d'EOSC est pertinente et essentielle pour la recherche, la diffusion des connaissances. Si on fait l'analogie avec les infrastructures de transport, que sont les routes, les systèmes ferroviaires, etc., ben, on voit l'importance que ça a pour notre société, notre économie. Et donc, l'idée d'EOSC est super importante pour la diffusion des connaissances. Mais enfin, ce que je veux mettre en contrepoint, c'est autant j'adhère à la vision, autant peut-être la façon d'implémenter la vision est complexe, enfin, est difficile. Et en tout cas, si je devais parler, enfin, dans nos établissements, enfin, dans mon établissement de recherche, parler à un chercheur d'EOSC en termes de services qui lui sont destinés, c'est très difficile. Si on regarde, par exemple, l'EOSC Portal. L'EOS Portal, c'est avant tout pour des techniciens, des systèmes d'information et de la data. Il n'y a pas réellement de end-user services qui sont présentés via l'EOS Portal. Les services end-user sont plutôt proposés via les clusters ou les infrastructures de recherche qui sont essentielles. Donc, d'un point de vue marketing, c'est difficile. D'un point de vue projet, implémentation, participer à des projets pour implémenter EOSC, c'est pas simple non plus. Voilà, donc, OK pour la vision, en être via les projets, c'est pas facile. Ça, c'était un commentaire général. La deuxième raison, enfin, donc, INRAE, c'est des recherches dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, l'environnement. Pour faire ça et travailler sur les enjeux de société liés au réchauffement climatique, nourrir la planète, etc., enfin, on a vraiment besoin d'intégrer des données hétérogènes, des données des omics, des données environnementales, des données socio-économiques qui sont produites par d'autres. Dans d'autres pays, que ce soit des données de la recherche ou même des données qui sont issues enfin plutôt de la sphère de la vie privée, telles que les chercheurs, telles que les fermes, par exemple. Donc, on a besoin de ces données pour travailler sur nos sujets de recherche. Et donc, je me disais un petit peu sous forme de boutade que finalement, aujourd'hui, pour que l'EOSC nous apporte enfin vraiment sa promesse, il faudrait qu'on soit capable d'intégrer des données qui viennent d'Envirifère pour les données environnementales, d'EOSC Live pour les données des OMIC, et puis de Choc pour avoir des données socio-économiques. Donc, cette notion de data hub est essentielle, mais c'est complexe. Et c'est tellement essentiel qu'en fait, en interne INRAE, on a choisi d'avoir un projet interne qui est un micro-projet EOSC. En fait, on essaye de travailler voilà, un data hub qui nous permet déjà de décloisonner nos propres silos. Donc, voilà, et le fait de participer à des projets tels que EOSC Pilar nous aide aussi à tirer notre infrastructure vers le haut et à la voir vraiment notre infrastructure de data, à la voir vraiment comme quelque chose qui doit s'interconnecter. Et donc, on a besoin de s'adosser aussi sur les services EOSC tels que authentification, et tout ça, et voilà. Et puis la troisième raison, donc c'est que pourquoi s'engager dans EOSC? Ben, parce que en fait, ça deviendra ce qu'on en fait. Via la ISBL, on a un système de gouvernance qui s'annonce collaboratif. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on soit capable de s'intégrer dans cet écosystème de personnes qui peut-être a fonctionné beaucoup aujourd'hui avec des réseaux de connaissances déjà existants. Mais on a besoin d'ouvrir ces projets à d'autres acteurs et à de nouvelles têtes. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire. Donc, pourquoi s'engager dans EOSC?
Merci, Odile, pour cette réflexion. Suzanne, tu n'es pas seulement directeur du EOSC Association, mais aussi chercheur au CNRS. CNRS sur cette discussion?
Merci Volker. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà par Costas, Martine et Odile. Donc je vais essayer de prendre un autre axe, même si forcément je souscris pleinement à ce qui a été dit précédemment. Donc sur le pourquoi s'engager dans l'EOSC, je dirais je donnerai deux raisons principales. La première, c'est que, comme l'a dit Odile, l'idée est très belle. Et je crois que la politique de la science ouverte, c'est quelque chose, on en est assez convaincu. Et d'aller dans cette perspective-là, de travailler plus ensemble, de pouvoir mettre à disposition les données, les services, c'est forcément quelque chose vers lequel on a envie de s'engager. Et puis la deuxième raison, elle est très terre-à-terre, c'est que finalement, ces collaborations-là, elles permettent aussi de réduire la duplication des efforts au niveau des personnes qui travaillent ou au niveau aussi des services. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 15 ou 40 outils quasiment identiques dans toute l'Europe? Alors pour certaines choses, oui, mais pas pour tout. Donc rationaliser un petit peu les efforts, les engagements pour pouvoir arriver à une recherche plus innovante. Je crois que ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Et du coup, ça me fait penser à une troisième raison pour le pourquoi, qui serait finalement aussi les possibilités, les opportunités de collaboration en Europe, dans le contexte scientifique, mais aussi à l'extérieur des communautés scientifiques, avec des entreprises, des institutions publiques, pour pouvoir répondre aux enjeux et aux défis. On a bien vu l'exemple du Covid cette année, et c'est pas fini. L'importance de la collaboration inter-pays, interdiscipline, dans cette perspective. Et alors, comment? Je crois que là aussi, ça a été assez dit, mais là, ce que je mettrai en avant, c'est qu'en fait, on peut s'engager à différents niveaux, parce que quand on parle de l'EOSC, ça fait souvent un peu peur, même si ça se structure, parce que c'est européen, parce que c'est multidisciplinaire, parce qu'il n'y a pas que des universités, mais des centres de recherche, des infrastructures, des PME, etc. Donc on se dit, bon, ok, mais ma place, elle est où? Ma place en tant que chercheur ou en tant que fournisseur de services, comment je me fais entendre, comment je travaille avec les autres? Donc là, il y a quelque chose qui est, c'est, voilà, ça peut être un peu angoissant quand même. Et puis, si je fais ça, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça va me coûter plus cher en termes de temps de... Donc, je crois que c'est important de se rappeler que c'est à tout niveau les OSC. Ça a été montré dans les projets ce matin. Ça commence au niveau local, en informant nos communautés de chercheurs, en travaillant avec eux, en les formant aux nouveaux outils, au plan de gestion des données. Et puis ça passe au niveau régional, national et ensuite européen. Et je pense que voilà, c'est à chaque échelle que l'engagement peut se faire dans les OSC. Et parfois, on a l'impression d'être très loin de la gouvernance de les OSC. Mais finalement, ça commence aussi en bas. Et c'est surtout, si on n'a pas le bas, il ne pourra rien avoir en haut. Donc, c'est super d'avoir une gouvernance, mais il faut surtout s'assurer que les communautés sont représentées à tout niveau. Donc voilà, je mettrai surtout le comment, il doit se faire à chaque niveau de l'échelle, voilà, pour pouvoir travailler au mieux. Et puis, c'est tout pour moi. Merci.
Merci Suzanne. Jean-François, tu as déjà parlé, mais tu as autre point pour mentionner dans cette discussion?
D'accord. Donc, je rappelle que je parle comme citoyen européen et pas comme membre de l'EOSC Executive Board. Et donc, à ce titre, pourquoi s'engager dans l'EOSC? Moi, je suis plus, comment dire, volontaire plus que Suzanne, c'est-à-dire que je considère que, disons, Homo sapiens a pris sa position sur la planète parce qu'il a su partager des connaissances. Que là, on a un nouveau moyen, le numérique donne un nouveau moyen de partager des connaissances et que donc la science ouverte, elle est inéluctable. Donc elle arrivera quoi qu'il arrive. Donc pourquoi s'engager dans l'EOS? C'est ou bien on veut monter dans le train qui s'en va vers l'avenir. Ou bien on veut rester à quai. Donc le pourquoi, de mon point de vue, il est évident. Le comment dépend évidemment après du rôle qu'on joue dans le monde de la science ou dans la société civile. Donc là, il n'y a pas une réponse. Au contraire, alors que pour le pourquoi, il y a à mon avis une seule réponse. Pour le comment, il y a une grande multitude de réponses, puisque évidemment, on va venir autour de la table avec les compétences qu'on a, l'expertise qu'on a, les problèmes qu'on a, qu'on cherche à résoudre. Donc voilà. Je vais en rester là, puisque pour le reste, j'ai eu la parole juste avant.
Merci Jean-François. François, avec ton point de vue, Messerie, qu'est-ce que ton commentaire sur cette table ronde?
Oui, je vais peut-être fusionner plusieurs de mes casquettes dans ce que je vais dire là, excusez-moi. J'ai été présidente du groupe de travail FAIR de l'EOSC Executive Board qui s'est terminé comme les autres à la fin de l'année. Et ce qu'on a vu dans toutes les questions qu'on a regardées de près, c'est l'importance de prendre en compte les besoins et les pratiques des communautés scientifiques qui sont très différentes d'une communauté à l'autre. Les communautés vont être utilisatrices du système comme utilisateurs finaux, mais aussi comme fournisseurs de données, de logiciels et de services thématiques. Donc, il faut tout faire pour les associer à la construction de l'EOSC, pour leur donner aussi des raisons d'y participer pour que l'EOSC remplisse leurs besoins et prenne en compte ce qu'elles font correctement.